France Inter. Le 18-20, Fabienne Saintès.
On vient donc de passer l'étape 1, la commission spéciale de l'Assemblée nationale. L'étape 2, c'est le débat à l'Assemblée nationale et ça se passe à partir de mardi. La loi bioéthique et surtout son volet le plus discuté ou controversé, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes, reste le sujet de cette rentrée. Je vous avais promis de l'aborder sur tous les angles. Eh bien, nous y voilà, nous y revoilà plutôt au milieu des rendez-vous officiels devant les parlementaires. On a vu aussi se préparer quelques opposants. On a entendu, comme souvent, beaucoup d'approximations, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de fantasmes et de demandes d'explications, filiation, pénurie, anonymat. Cette loi secoue la société et c'est tant mieux, elle fait débattre et c'est tant mieux. Ce soir, vous aurez l'occasion d'interroger celle qui porte ce projet, donc de demander ce qui vous gêne, ce qui vous paraît incomplet, ce que vous avez mal compris, ce que vous voulez voir clarifié. Le volet médical avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé, le volet juridique avec Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Merci à toutes les deux de participer à ce téléphone sonne et nous on y va.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Joseph, c'est vous le premier. Bonsoir Joseph et bienvenue.
Bonsoir, je voudrais porter mon témoignage. J'ai été donneur en 1984 à Nancy, il y a 35 ans. Et à cette époque, bon, j'ai souhaité faire œuvre utile en aidant des parents confrontés à la stérilité. 20 ans après, j'ai découvert que les personnes conçues par don, fort nombreuses, souffraient de ne pas connaître leur origine. Donc je souhaite maintenant apporter mon aide à ces personnes en quête de leurs origines. Ça me semble tout à fait normal. Il s'agit pour moi d'un devoir moral d'aider ces jeunes. Ce ne sont plus des bébés, ce ne sont plus des enfants. La plupart ont 30, 35, voire 40 ans.
Donc ce que vous dites, Joseph, pardon de vous interrompre parce que la ligne n'est pas très bonne. Ce que vous dites, c'est qu'à l'époque, c'était anonyme. Mais aujourd'hui, si on vous rappelait, en gros, et qu'on vous demandait si vous donneriez votre autorisation pour qu'on sache que le donneur, c'était vous, vous diriez oui. Est-ce que j'ai bien compris votre
Absolument.
Question ? D'accord.
Absolument, c'est exactement ça. Je ne suis pas en quête des personnes dont j'ai permis la conception, absolument pas. Mais si ces personnes me cherchent, je suis OK, je réponds présent.
Eh bien écoutez, voilà. Merci beaucoup Joseph pour cette entrée en matière, merci pour ce démarrage. Il y a déjà Agnès Buzyn qui lève la main. Allez-y, je vous en prie Madame Buzyn.
Oui, merci beaucoup. Alors, il est vrai que la loi ne va pas être rétroactive, c'est-à-dire que les nouveaux donneurs qui seront recrutés lorsque la loi sera promulguée avec un certain délai, ce seront des donneurs auxquels nous demanderons leur autorisation pour que les enfants conçus avec leur don aient accès soit à des données, ce qu'on appelle non identifiantes, la taille, le poids, d'où ils viennent, le métier, ou à des données identifiantes à travers une commission qui regardera l'opportunité et qui contactera les donneurs. Donc, les nouveaux donneurs ne pourront plus donner s'ils n'acceptent pas cette condition de l'accès aux origines. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne pouvons pas recontacter les anciens donneurs.
Et pourquoi pas ? Pardon de vous le dire comme ça, et pourquoi pas ? Parce qu'il y en a 363.
Non,
beaucoup de coups de fil.
Non, c'est un contrat moral avec eux. On leur avait dit qu'ils resteraient anonymes et qu'ils n'auraient pas de recontact de la part de l'État. Par contre, il y aura une grande campagne qui sollicitera auprès des donneurs comme ce monsieur leur participation à la commission, c'est-à-dire que s'ils veulent tout d'un coup rentrer dans le nouveau régime, ils pourront se faire connaître auprès de la commission et donc des enfants issus de ces dons pourront alors retrouver leur donneur lorsque le don aura eu lieu avant la loi.
D'accord, donc c'est pas rétroactif, mais fait on peut...
Ce ne sera pas imposé par la loi. Ce que dit Agnès, c'est que ce ne sera pas imposé par la loi, mais qu'en revanche, ceux qui, comme apparemment Joseph, voudront participer et se faire connaître, à ce moment-là, on pourra prendre en compte leurs souhaits.
Donc ça veut dire que c'est à vous, Joseph, de téléphoner à qui d'ailleurs, de le dire à qui très concrètement, on sait ça déjà ou pas?
Il y aura une commission qui va se mettre en place dès la promulgation de la loi, une commission qui aura justement pour objet de recueillir cette volonté des personnes qui ont donné dans les années antérieures. Cette commission se mettra en place au sein du ministère de la Santé, donc on le fera savoir et Joseph pourra alors se faire connaître.
Eh ben écoutez, et on reviendra sur cette question parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais qu'on écoute Marion. Bonsoir Marion.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Marion.
Écoutez, je suis très contente de passer après l'intervention de Joseph, parce que ce que ça montre, c'est qu'il y a des gens comme Joseph qui ont donné, des gens comme moi d'un côté qui sont en recherche de leur bonheur. Et en fait, je comprends pas cette histoire de contrat moral et d'intrusion dans la vie privée de ces personnes, puisque on voit bien qu'il y en a qui sont prêtes à changer d'avis et à revenir sur cette question de l'anonymat. On ne demande pas à ce que la loi soit rétroactive, mais on aimerait juste, en fait, que vous puissiez leur poser la question.
Merci Marion, Nicole Belloubet et Agnès Buzyn d'ailleurs l'une après l'autre, parce qu'à la fois effectivement on parle d'éthique, on parle de médical, on parle aussi de justice là derrière. On a bien compris ce que vous aviez expliqué après le coup de téléphone de Joseph, et en même temps pour Marion qui aimerait avoir quelques explications, c'est pas suffisant.
Oui, je la comprends, et franchement c'est parce que nous avons vraiment entendu ce besoin des enfants nés d'un don, de connaître leur origine, que nous avons mis en place cette commission dès la promulgation de la loi, et que nous ferons un appel général aux anciens donneurs pour qu'ils se fassent connaître et qu'ils acceptent de rentrer dans la nouvelle législation. Mais ça n'est pas rien de recontacter. Ce que demande Marion là, ce serait que quelqu'un appelle un ancien donneur 20 ou 30 ans après. Peut-être qu'il n'a pas prévenu son épouse, peut-être qu'il a des problèmes personnels. C'est une forme d'effraction dans la vie des gens, et aujourd'hui les médecins ne se sentent pas autorisés à le faire. Ce serait rompre un contrat moral, et la loi ne peut jamais s'appliquer, l'obligation ne peut pas s'appliquer de façon rétroactive.
Il n'est pas possible que la loi civile soit rétroactive, cela bouleverserait des équilibres qui ont été établis, ça n'est pas possible. En revanche, je crois que la campagne de communication et la réponse apportée à ceux qui voudraient se faire connaître pourrait permettre d'évoluer favorablement.
Ceux qui voudraient... Allez-y, Agnès Buzyn.
Oui, d'ailleurs, on est très heureux que le débat soit rendu public, parce que nous pensons que plus on va en parler, plus d'anciens donneurs vont être sensibilisés et se feront connaître.
Et vous savez, on a déjà fait un téléphone sonne, notamment depuis la rentrée sur ce sujet. Il y a déjà eu un autre Joseph qui disait effectivement la même chose, et qui avait bien conscience qu'il n'était que donneur, j'y mets des guillemets. Donc l'idée, c'était pas d'aller réclamer une paternité, c'était juste d'ouvrir la porte en disant, si vous avez besoin, je suis là. Si vous n'avez pas besoin, vous ferez comme vous voudrez. La campagne de publicité dont vous parlez, Agnès Buzyn, elle est destinée alors à ces cas-là. Est-ce qu'aussi, de toute façon, il faut anticiper sur une baisse des dons avant peut-être d'autres dons, peut-être un autre profil de donneur même désormais, ou pas,
hein? Oui, alors les pays qui ont mis en place cet accès aux origines ont vu une baisse des donneurs et une remontée des dons.
On va rappeler quand même le chiffre. 363 en France, ça me paraît incroyablement bas, en fait.
Oui, ça suffit.
Nous alors, avons, c'est vrai, un donneur 10 personnes, mais enfin quand même.
Oui, oui, nous avons des stocks de paillettes, notamment de spermatozoïdes, qui sont extrêmement nombreux. J'ai les chiffres, je crois que c'est 136 000. Nous avons, par contre, une pénurie de gamètes féminines, c'est-à-dire d'ovocytes. Là, c'est beaucoup plus compliqué, mais parce que l'acte est plus lourd.
Bien sûr.
Et donc, ces donneurs, dans les pays où l'accès aux origines a été rendu possible par la loi, ont vu une baisse des dons initiales, puis une remontée au niveau antérieur, avec une différence de profil des donneurs. Et nous allons mettre en place une séquence progressive pour qu'il n'y ait pas de pénurie de gamètes. Donc ça, nous l'avons très bien préparé. Nous utiliserons les stocks antérieurs jusqu'à ce que nous ayons reconstitué un stock suffisant pour passer dans le nouveau régime.
Nicole Belloubet, est-ce qu'il est utile ou parfaitement inutile, ces questions à un moment ont effleuré, d'introduire dans la loi, de spécifier que lorsqu'on donne son sperme, il est évidemment interdit et impossible de dire si vous souhaitez donner pour un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel. Est-ce que ça s'introduit, est-ce que ça s'écrit, ça noir sur blanc dans la loi?
Oui, absolument. C'est-à-dire que nous refusons de manière claire ce qu'on appelle les dons croisés, finalement, c'est-à-dire pour un donneur de choisir la personne à qui s'adressera son don. Je crois que ça serait vraiment aller à l'encontre de l'esprit même de la loi, et donc ça, c'est quelque chose que nous n'autoriserons pas.
Don croisé et don dirigé, c'est encore autre chose. Don dirigé, ça marche surtout d'ailleurs, vous l'avez dit, vous parliez des ovocytes tout à l'heure, lorsque pour renouveler le stock, au fond, on vient avec un donneur, une donneuse, pour permettre un renouvellement de stock. Ça se fait de manière, j'allais dire presque naturelle, dans beaucoup d'endroits, en fait.
Oui, mais ce n'est pas un don dirigé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains couples arrivent avec une sœur, par exemple, qui est d'accord pour donner ses ovocytes de façon à reconstituer le stock. mais les ovocytes de cette femme ne vont pas servir à sa sœur.
Exactement, absolument.
Et donc, en fait,
c'est juste l'idée d'équilibrer le stock en quelque sorte. Voilà. Pardon de dire des choses un peu stock, c'est pas très joli.
Absolument, mais l'anonymat du don aujourd'hui est un fondamental des lois de bioéthique à la française, et donc le don dirigé, en fait, lèverait par essence l'anonymat, c'est-à-dire que celui qui recevrait les ovocytes de la femme ou les spermatozoïdes connaîtrait le donneur. Et ça, c'est strictement impossible aujourd'hui dans le droit français, et nous souhaitons le maintenir parce que ça n'est pas simple non plus dans la construction d'un enfant que de savoir qu'il a un père, une mère, éventuellement une tante qui elle-même est donneuse des ovocytes. Tout cela complexifierait la construction de l'enfant.
Larissa, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Bonsoir, mesdames les ministres. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Réseau Fertilité France et j'ai publié la semaine dernière une tribune demandant l'autorisation pour les couples de femmes de la technique de fécondation in vitro avec réception de l'ovocyte de la partenaire, qu'on appelle aussi ROPA. En fait, c'est une procédure de PMA spécifique aux couples de femmes. Et lorsqu'un couple de femmes conçoit un embryon in vitro avec un don de sperme, avec l'ovocyte d'une des femmes, ça permet à l'autre femme de porter l'enfant. Donc cette technique qui permet à la fois de partager la maternité, elle a aussi des avantages médicaux, puisque si l'une des femmes a une infertilité ovarienne et ne peut pas utiliser ses propres ovocytes, ça permet de recourir aux ovocytes de sa compagne, donc de l'autre mère, au lieu de recourir à la banque, ce qui est parfaitement conforme avec la réglementation actuelle qui encadre la PMA et qui dit qu'on doit d'abord recourir aux gamètes du couple avant de solliciter la banque d'ovocytes. Donc Madame la Ministre, vous avez dit lors de l'audition devant la Commission spéciale de l'Assemblée nationale que le gouvernement émettait un avis défavorable sur la ROPA, que vous avez qualifié de don dirigé, qui ne respecterait pas l'anonymat, et dans lequel l'ovocyte serait reçu par une femme porteuse. En fait, dans la ROPA, il n'y a pas de don d'ovocyte, puisque l'ovocyte provient d'une des deux mères. Il n'y a pas non plus de femme porteuse, puisque l'enfant est porté par une de ses mères. Donc ma question est simple, est-ce que vous pourriez revoir votre position et celle du gouvernement sur l'autorisation de la ROPA pour les couples de femmes? Merci beaucoup.
Agnès Buzyn, on vous écoute.
Alors, je comprends, il y a une demande très forte des couples de femmes donc que les ovocytes de la mère qui ne portent pas l'enfant soient en fait utilisés pour la fécondation in vitro et soient réimplantés dans la mère qui porte l'enfant. Je comprends cette demande, évidemment, ça paraît simple. En fait, c'est une ouverture vers le don dirigé et c'est une ouverture aussi vers la GPA quelque part. Et surtout, on risquerait d'imposer cela à tous les couples de lesbiennes, en réalité, de façon à éviter toute pénurie de gamètes féminines, puisque c'est en réalité aujourd'hui un point bloquant.
On risquerait d'imposer ça veut dire quoi? La dérive, c'est celle-là? Dans quelques mois ou quelques années?
Pour les couples de lesbiennes, on aille systématiquement vers cette technique, parce que quelque part, ça éviterait d'avoir à utiliser des gamètes de donneuses. On aurait d'emblée la donneuse qui serait dans le couple. Et en réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'effets de bord, si je puis dire, d'effets collatéraux qui font qu'aujourd'hui, nous ne souhaitons pas ouvrir cette technique.
On est resté vraiment sur le principe de l'anonymat du don. Je crois que c'est un principe général qui, me semble-t-il, évite des dérives, bien que je comprenne parfaitement ce que dit notre interlocutrice. Mais on est vraiment resté sur ce principe de l'anonymat du don qui, je crois, nous permet de déployer l'ensemble des hypothèses.
Sandrine, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Sandrine, on vous écoute.
Oui, bonsoir mesdames et les ministres, bonsoir à toute l'équipe de France Inter. Moi j'ai une question qui concerne le dépistage génétique de prédisposition à certains cancers. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez prévu un dépistage des filles ou pas, de mettre au courant ces enfants à naître et leurs parents d'un pactage, on va dire, génétique qui soit...
Et donc, vous parlez de diagnostic préimplantatoire, on est d'accord, Sandrine?
Alors, non, pas du tout.
Ah,
pas de diagnostic préimplantatoire. Je parle d'un pactage génétique, que chaque enfant et chaque individu naît avec son pactage génétique, quel que soit son père ou sa mère, qu'il soit donneur ou non. On a tous un pactage génétique. Et à l'heure actuelle, on fait des dépistages génétiques de prédisposition à certains cancers sur lesquels on peut agir, comme les cancers du sein et des ovaires. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez pensé à cette question, je crois que oui, et de mettre au courant les futurs parents et surtout les enfants à naître et les futurs individus qui seraient éventuellement porteurs d'une, d'un problème génétique important.
Merci Sandrine.
Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair.
Mais si,
désolée.
Si, visiblement, oui, absolument. Voilà. Mais maintenant, c'est clair. Allez-y, Agnès Buzyn.
Alors, nous sommes défavorables aujourd'hui aux tests génétiques en population générale, ce qu'on appelle les tests récréatifs, parce qu'ils donnent des informations qui peuvent être mal interprétées et dont la robustesse n'est pas excellente. Et donc, nous ne souhaitons pas ouvrir et généraliser ces tests génétiques qui permettraient à chaque individu de connaître son génome. En réalité, ça induirait des changements de comportement dans la société et peut-être un certain charlatanisme autour de prescriptions, de prévention pour éviter telle ou telle maladie. Donc ça, nous n'ouvrons pas parce qu'aujourd'hui, la connaissance scientifique autour des anomalies génétiques et des risques de pathologie sont assez faibles. Par contre, pour les familles dans lesquelles il y a des cancers d'origine génétique, et ça nous les connaissons, on rentre dans les indications médicales d'identification des gènes à l'échelon individuel. Et donc, les familles pour lesquelles il y a un cancer d'origine génétique sont recontactées par les conseillers en génétique, elles sont suivies, les parents sont informés. Donc, d'ores et déjà, aujourd'hui, la réglementation permet et favorise même le fait que ces familles soient suivies par des conseillers en génétique et des généticiens.
Il y a quelque chose de faux qui revient très souvent et qui dit que si les enfants conçus par PMA veulent savoir qui était leur père, c'est aussi pour connaître ou qui était leur donneur, c'est aussi pour connaître leurs antécédents génétiques, les maladies qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'on peut là aussi dire les choses clairement? Lorsqu'on va faire un don, on nous demande ces choses-là. On ne met pas, j'allais dire, dans la circulation ovocytes et sperme qui auraient été de toute façon touchée par une maladie quelle qu'elle soit. On est d'accord avec ça?
Alors effectivement, les donneurs sont sélectionnés avec un questionnaire qui regarde toutes les maladies connues d'origine génétique. Donc c'est un questionnaire très long qui permet en fait de sélectionner des donneurs qui a priori n'ont pas de maladie familiale connue. Il n'empêche qu'on peut imaginer que 20 ans plus tard, le donneur se découvre une pathologie génétique. Ça, Et donc, dans la loi, nous avons mis une mesure qui fait que le donneur peut informer via la commission qu'il souffre d'une maladie génétique. Et la commission fera le lien avec les receveurs et les enfants, avec les enfants nés de ce donneur. Et à l'inverse, si un enfant né d'une PMA avec un tiers donneur se découvre une maladie génétique, donneur de gamètes sera également informé via la commission et donc la loi va le permettre.
On a un auditeur qui veut qu'on rappelle jusqu'à quel âge peut-on donner son sperme quand on est un homme? Quel est l'âge limite?
J'ai peur de vous dire une bêtise, je crois que c'est une cinquantaine d'années, mais je n'en suis plus tout à fait sûre.
Eh ben, voici Mathilde qui a évidemment une autre question. Bonsoir Mathilde.
Bah, une question qui, du coup, bonsoir, est en rapport un peu avec la précédente.
Et oui,
là, que vous venez d'évoquer.
C'est bien fait le téléphone sonne.
Moi-même, vraiment en tant que femme, j'aimerais pouvoir donner mes ovocytes, mais je pense que je suis bientôt atteinte par la limite d'âge. Je suis maman, je pense que je peux faire don de cela et en profiter d'ailleurs en même temps pour une stérilisation pour ma part. Mais voilà, j'ai 36 ans et je ne sais pas s'il n'est pas trop tard et je me rends compte que c'est dur d'avoir cette info et je me demandais si une campagne de communication de simplification était prévue pour permettre aux femmes de donner aisément leurs ovocytes.
Merci beaucoup Mathilde pour votre question. Je vais vous mettre dans la confidence parce que pendant ce temps dans l'oreille on me dit je crois que c'est 35 ans, attends bouge pas, les chiffres diffèrent. Ça veut dire qu'en effet il y a de l'information à faire. On le connaît ce chiffre ou pas?
Alors il y a deux informations majeures. Il y aura une des campagnes d'information que nous allons lancer une fois que la loi sera promulguée. Une première campagne, c'est une information des femmes sur les risques d'infertilité. Les femmes ne savent pas suffisamment que la fertilité baisse de façon importante après l'âge de 35 ans et il y a lieu vraiment de faire en sorte qu'elles le sachent et qu'elles ne repoussent pas pour des raisons professionnelles ou autres l'âge du premier enfant. Et donc il y aura beaucoup d'informations sur la fertilité féminine très tôt, y compris peut-être au collège ou au lycée, pour que les femmes aient conscience de cela. Et puis, nous ferons une très grande campagne pour faire appel aux dons, puisque comme la législation va changer, il faut que les nouveaux donneurs qui accepteront l'accès aux origines soient contactés, soient motivés, mobilisés. Et donc, cette campagne aura lieu dès la promulgation de la loi.
Une question qui est pour vous, Nicole Belloubet, de Nicole d'ailleurs, sur franceinter.fr, qui parle de la reconnaissance anticipée d'avant-naissance et qui dit, je sais que ça va se passer théoriquement comme avec les couples hétérosexuels, mais quand on fait fait sa démarche de PMA à l'étranger, est-ce que cette reconnaissance anticipée d'avant naissance marche de la même manière ?
Alors, quand la loi sera adoptée, effectivement, pour les couples de femmes, nous avons prévu un mécanisme juridique qui assure vraiment la sécurité et l'égalité des deux mères. Et donc, pour permettre cela, au moment où les femmes iront chez le notaire faire un consentement à la PMA ou à la MP, en même temps, on leur demandera de signer une reconnaissance conjointe de maternité pour l'enfant qui naîtra. Et donc, cet acte de reconnaissance conjointe fera d'elle, dès que l'enfant sera né, fera d'elle des mères à égalité. Si les femmes dont nous parlons ont fait ce consentement et cette reconnaissance conjointe, peu importe le lieu où sera effectuée la PMA. Si elle est effectuée en France, évidemment, cela vaudra. Mmh. Et si c'est effectué à l'étranger, de la même manière. Mais au fond, tout notre texte vise à ce que cette PMA puisse se dérouler en France dans les meilleures conditions possibles, évidemment pour les mères en question.
Bien justement, d'ailleurs, pour que tout puisse se dérouler en France, on a beaucoup parlé déjà du risque de pénurie qui peut arriver. Les chiffres disent à peu près que en Belgique, par exemple, il y a 7000 fécondations par an. C'est pas que des Françaises, mais ça donne. Mais il y a quand même une grosse proportion qui vient forcément de France. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous sur la recrudescence subitement de demandes et donc sur les pénuries éventuelles qui finiront par renvoyer les femmes à l'étranger?
Alors d'abord, il faut bien prendre conscience que l'information sur la pénurie qui serait liée à l'ouverture de la PMA aux femmes est fausse.
Oui, il ne va pas y avoir un appel d'air subi, la queue devant les sécos, on
surtout,
est d'accord.
Surtout, les femmes n'ont pas besoin d'ovocytes, sauf exception. Quand
on est d'accord.
Voilà. Et donc en réalité, les femmes ont besoin de spermatozoïdes, et il se trouve qu'on ne souffre absolument pas de pénurie de spermatozoïdes. Donc en réalité...
Dit comme ça, c'est assez drôle.
Voilà, donc l'ouverture de la PMA à toutes les femmes... n'est pas un élément qui risquerait de créer de la pénurie. Ce qui peut créer une baisse des dons, c'est le fait qu'on demande aux nouveaux donneurs qu'ils acceptent l'accès aux origines. Mmh. Et ça, nous savons qu'il faudra un peu de temps pour reconstituer un stock de nouveaux donneurs. Mais les expériences étrangères nous font penser qu'en quelques mois, le problème sera réglé.
Madame Belloubet, pardon, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non,
sinon, j'ai une
tout.
Question de Guy pour vous et qui dit « Je suis donneur de sperme, quelle est l'incidence de me faire connaître sur le règlement de ma succession lors de mon décès ?» En gros, ce que ça veut dire, c'est comment la loi...
Ah non, mais ça c'est très clair.
Et comment la loi se prémunit et explique bien
il
que donneur n'a rien à voir.
Voilà, absolument. Il n'y a aucun lien de filiation qui peut être établi entre le donneur et l'enfant qui naîtra de ce don. Ça c'est très clair. La filiation, elle est établie à l'égard du couple de femmes ou du couple hétérosexuel qui a fait la reconnaissance de cet enfant, pour cet enfant. Mais il n'y a absolument aucun lien de filiation. Et j'ajoute une chose, ce que nous établissons dans la loi, ce que nous proposons dans la loi, c'est évidemment un droit supplémentaire pour les couples de femmes, c'est celui d'accéder à la PMA. Conséquence de ce droit, un mode d'établissement de la filiation pour l'enfant à naître. Mais une fois que cet enfant est né, il aura exactement les mêmes droits que tous les autres enfants. Il faut que ce soit bien clair. C'est un mode d'établissement de la filiation qui peut être différent. Vous avez l'adoption, la filiation classique, la filiation par PMA, mais évidemment, les enfants ont les mêmes droits ensuite.
Agnès Buzyn, je vous ai vu lever le doigt.
Oui, je voudrais rassurer ce donneur sur le fait que non seulement ça n'a évidemment aucune implication en termes de succession, heureusement, mais il ne sera même pas obligé de rencontrer l'enfant. Les enfants nés par PMA avec tiers donneur contacteront la commission. La première étape, ce sera de leur donner des données sur l'âge, la profession, la région où la personne habite. Et la deuxième étape, si les enfants le souhaitent, sera de donner l'identité du donneur. Mais la commission, si l'enfant le souhaite, contactera le donneur, verra s'il accepte ou pas de le rencontrer. Mais la rencontre n'est pas obligatoire.
Au fond, c'est une histoire que veulent les gens plus qu'un nom. C'est une histoire, c'est une explication, un comment et à quel moment et pourquoi. Mais cela dit, pas tous. Bonsoir Jean-Paul.
Oui,
allez-y,
bonsoir.
On vous écoute Jean-Paul.
J'ai été donneur de spermatozoïdes il y a de nombreuses années, tout à fait en accord avec mon épouse, on avait des enfants, donc voilà. Je suis totalement opposé à l'idée de la levée d'anonymat. Les dons de sang, les dons de moelle, les dons de foie, de rein, de cœur, de poumon, de tout ce qu'on veut, sont gérés par l'anonymat. Et je ne vois pas pourquoi, sur un don de spermatozoïdes, on aurait une levée d'anonymat.
Et en même temps, pas partielle, donc pas complète, Jean-Paul. On nous a bien expliqué ça aujourd'hui.
Non, mais quand on fait un don de, quand il y a un don de rein, on sait ou on ne sait pas. En gros, si c'est éventuellement un homme ou une femme, et ça ne va pas plus loin.
Alors, je comprends tout à fait la remarque. Elle nous a été faite évidemment par les parlementaires. Ça n'est pas une levée de l'anonymat. Ce que nous faisons n'est en rien une levée de l'anonymat. Dans un don, dans une greffe, par exemple, le receveur et le donneur ne se connaissent pas et ne se connaîtront jamais. C'est l'anonymat. Là, c'est pareil. Entre le donneur et le couple de receveurs ne connaîtra rien de l'identité du donneur. Et donc, l'anonymat est totalement préservé pour les parents. Mais là, par rapport aux greffes, il y a une troisième personne. C'est un enfant qui va naître. Et cette troisième personne, on s'est rendu compte qu'elle avait besoin, pour se construire, de connaître une partie de cette histoire. Pas forcément la personne, d'ailleurs. D'ailleurs, quand elle en a la possibilité, elle ne cherche pas toujours à le faire. Et donc, c'est pour cette tierce personne, cet enfant, à l'âge de 18 ans, que l'on tient compte de son intérêt dans sa construction personnelle et qu'on accepte qu'il ait accès à des données non identifiante ou identifiante sur son donneur, et c'est pour cette troisième personne. Mais il n'y a pas de levée d'anonymat. En aucun cas, les parents n'ont cette information.
Bonsoir, Nicolas.
Oui, bonsoir.
Vous avez patienté longtemps, Nicolas, pardon, on vous écoute.
Oui, pas de problème. Après avoir parlé bioéthique et génétique, je vais essayer de rabaisser le débat sur le volet économique, puisque ça a l'air d'être la préoccupation principale du gouvernement. Donc, quel sera le coût de prise en charge par la sécurité sociale d'une mesure que j'estime, par pure provocation, être plus élitiste que populaire dans le sens de préoccupation du peuple?
Alors ça, je ne sais pas si c'est une préoccupation qui n'est pas celle du peuple ou pas. Moi, j'ai aucun chiffre là-dessus. Mais en attendant, sur le prix, effectivement, que ça coûte, est-ce qu'on peut avoir une réponse là-dessus?
Oui, aujourd'hui, les mesures d'impact sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes évaluent autour de 10 à 15 millions d'euros par an le coût de cette pratique, à comparer aux 300 millions d'euros que coûte la PMA pour les couples hétérosexuels. Il apparaît que c'est un budget abordable. Peut-être qu'il sera moindre. Nous ne savons pas en réalité combien de femmes exactement feront cette demande par an. Nous l'avons évalué à 2000 par an.
Oui, à peu près. Donc autour. Robert, pardon, excusez-moi Robert, je ne voyais pas votre nom. Robert est là aussi au 01 45 24 7000. Bonsoir Robert.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, je voulais savoir si une jeune femme qui n'avait pas d'enfant pouvait faire un don d'ovocytes.
Alors, effectivement, les dons d'ovocytes, merci Robert pour cette question très concrète, c'est plus compliqué que le don de sperme, et pour plein de raisons d'ailleurs. Est-ce qu'on peut rappeler comment ça se passe, Agnès Buzyn?
Alors, c'est une stimulation des ovaires par des médicaments et ensuite un prélèvement des ovocytes. Donc, c'est assez lourd comme acte et ça nécessite évidemment un vrai engagement de la personne. C'est beaucoup plus lourd, évidemment, que le don de spermatozoïdes. Aujourd'hui, sont autorisés des donneurs qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi ? Avant, on réservait le don à des personnes qui avaient déjà des enfants. Or, comme les Français font des enfants de plus en plus tard, nous avions des donneurs de plus en plus âgés. Et en réalité, la fertilité diminue tellement avec l'âge que nous avions des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes ou des ovocytes, de moins bonne qualité pour la PMA. Et donc, il y a quelques années, c'est l'une des lois de bioéthique antérieure, a été offerte la possibilité de donner ces gamètes avant d'avoir eu son premier enfant.
Il y a une question de Marie sur franceinter.fr qui nous demande si on a définitivement levé l'idée d'une évaluation psychologique complémentaire, notamment pour les femmes seules. Est-ce que oui ou non, cette restriction, on va dire, a été levée, nous demande-t-elle.
Alors,
pour l'instant.
En fait, euh, elle, elle existe, l'évaluation, puisque tous les couples et toutes les personnes en demande de PMA ont une évaluation.
C'est pour ça qu'elle dit complémentaire, Marie,
voilà,
en fait.
Par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a des psychologues. Et en fait, on avait rajouté dans la loi le mot évaluation psychologique qui était un peu discriminant et on se disait, mais pourquoi, juste alors qu'on l'ouvre à toutes les femmes, on rajoute ce point alors que, de fait, il existe déjà une évaluation par les équipes de PMA de tous les couples qui s'engagent dans cette démarche. Et ça sera le cas, on continuera la même évaluation.
Mais je vous pose la question parce qu'en Belgique, puisqu'on parle souvent de l'exemple qu'est celui de la Belgique, puisque c'est là que vont pour l'instant beaucoup les femmes en demande de PMA, ça existe de manière assez restrictive. En fait, il y a beaucoup de refus même, paraît-il, chez les Belges. Ça veut dire que notre loi à nous sera plus ouverte que celle des Belges au fond ?
Aujourd'hui, dans les équipes qui évaluent les couples qui s'engagent dans la PMA, il y a des psychologues. Donc, l'évaluation est faite. Je crois qu'il y a moins de refus en France qu'à l'étranger. Voilà. Ce qui est clair, c'est que avec ces changements de règles, l'Agence de la biomédecine qui gère et qui anime les centres de procréation médicalement assistée, les centres d'AMP et des SECOS, va revoir les procédures et les guides de bonne pratique. Et donc probablement, dans ces guides de bonne pratique, il y aura des évaluations du désir de parentalité, de la capacité à accueillir. Enfin, ça va être un travail qui va démarrer dès la promulgation de la loi pour que les nouveaux guides de bonne pratique des centres prennent en compte la diversité aujourd'hui des situations.
Je vais poser la question différemment. Si j'arrive, que je suis célibataire, que je ne travaille pas, que je suis dans une situation très précaire, est-ce que j'ai la même chance que quelqu'un qui est dans une situation qui est moins précaire que moi ?
Aujourd'hui, la précarité n'est pas un critère de refus pour l'AMP.
Que les choses soient... Je crois qu'il faut bien clair. Non, mais voilà, que les choses soient très, 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 très claires auprès de tout le monde.
L'AMP n'est pas réservée à une élite. Donc, je crois que ce que vient de dire Agnès Buzyn est tout à fait exact. La précarité n'est pas un critère sur lequel la situation va être appréciée.
Que les choses soient bien, bien claires. Merci beaucoup. Magali, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bon, c'était juste un témoignage. Moi-même, j'ai été donneuse de gamètes dans les années 2010. Et je serais tout à fait prête, comme l'auditeur de tout à l'heure, Joseph, à lever partiellement mon identité. Et enfin voilà, il n'y avait aucun problème là-dessus. J'étais mère avant, j'ai été mère après. Et mon témoignage, c'était juste pour signaler que j'avais eu énormément de problèmes pour avoir des informations sur la procédure à suivre. Et à tel point que quand j'avais engagé le processus et j'ai été suivie dans la dernière phase là, avec des échographies tous les deux jours, le médecin, l'échographe qui me suivait, m'avait vu arriver avec des gros yeux en me disant, mais vous êtes suivi par le SECOS, mais vous avez un stérilé. Je dis, bien sûr, moi je suis donneuse. Ah, mais c'est tellement rare. Je dis, oui, malheureusement, il y a eu tellement peu de communication de la part des gynécologues qui me suivaient. Voilà. Donc, c'était juste ce témoignage et que, voilà, je comprends la difficulté de construction des enfants qui sont issus de dons de gamètes pour l'avenir. Quoi.
Et d'où l'intérêt de reparler, refaire une campagne de publicité, s'adresser aux hommes, s'adresser aux femmes.
De communication plus que de publicité.
Oui, très bien. De campagne de communication, s'adresser aux hommes, s'adresser aux femmes aussi ou en priorité pour ce qui est du don, Agnès Buzyn.
Les deux, nous aurons besoin de reconstituer un stock complet à la fois d'ovocytes et de spermatozoïdes. Il est vrai qu'il y a beaucoup moins de donneuses féminines que de donneurs masculins. Donc les campagnes d'information qui démarreront s'adresseront aussi aux femmes, évidemment, et via notamment le réseau des gynécologues obstétriciens.
Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Emmanuel.
Alors, attendez, excusez-moi.
Je vous en prie, faites comme chez vous.
Voilà, c'est que j'étais au volant.
Oui, donc garez-vous.
Voilà, c'est fait. Bonsoir. En fait, je me pose une question. Avec mon épouse, nous sommes sur un parcours PMA, un vrai parcours depuis un an et demi, dû à ma stérilité. Donc c'est une pathologie. Moi je me pose juste la question, c'est le seul truc qui m'embête, c'est est-ce qu'il est normal qu'une personne qui n'a pas de pathologie, mais ni plus ni moins qu'un désir, soit pris en charge au même titre que moi qui suis dans une maladie, hein. Ça me pose question quand même, parce que si c'est juste par un désir d'enfant, on peut peut-être imaginer qu'il y a un mode de prise en charge différent avec... pas les mêmes remboursements, pas les mêmes prises en charge.
Merci Emmanuel. Question classique, Agnès Buzyn qui est beaucoup revenue et oui, sur laquelle il faut revenir encore.
D'abord, je crois que 15% des couples aujourd'hui dans des parcours de PMA n'ont pas de stérilité avérée. Ils déclarent une infertilité, ils essayent d'avoir un enfant au bout d'un an, sans réussir à avoir un enfant par voie naturelle, si je puis dire, ils peuvent s'engager dans une démarche de PMA. Et d'ailleurs, souvent, ils font leur premier enfant avec une fécondation in vitro ou une technique de procréation médicalement assistée. Et ensuite, ils ont des enfants naturellement. Parce qu'on voit bien que ça déclenche quelque chose dans le couple. Et donc, ce critère d'infertilité d'origine médicale n'est pas aujourd'hui nécessaire pour rentrer dans une démarche de PMA et être remboursé. Nous souhaitons que tout le monde en bénéficie. Nous souhaitons que la loi soit, enfin, que cette possibilité soit effective pour tous les couples. Or, en réalité, les femmes qui ont déjà les moyens, les couples de femmes qui ont déjà les moyens, vont le faire à l'étranger. Oui. Donc si on veut que la loi s'applique pour tout le monde, y compris femmes qui n'ont pas forcément des milliers d'euros à les dépenser en Belgique, eh bien nous sommes tenus à cette égalité d'accès via le remboursement.
En creux, derrière la question d'Emmanuel, il y a aussi la priorité, au fond. Et comment on répond à cette priorité-là? Est-ce qu'on dit simplement que couple hétéro, couple homo, femme seule, pardon de le dire comme ça, premier arrivé, premier servi, et puis c'est tout, il n'y a pas d'autres critères?
Il n'y a pas d'autres critères et les parlementaires ont souhaité l'inscrire dans la loi. Ils ne veulent absolument pas qu'on puisse hiérarchiser l'urgence ou les priorités. Mmh. Et donc, les parlementaires ont souhaité amender l'article pour être certain qu'il n'y aura pas de choix en fonction justement de critères d'homosexualité ou pas, qui est une grosse crainte aujourd'hui.
On l'a dit à plusieurs reprises, cette loi, c'est une loi de bioéthique, c'est pas une loi d'égalité des droits. Mais lorsque nous instaurons des droits nouveaux, nous veillons évidemment à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité. Et c'est la raison pour laquelle Agnès vous a répondu là sur les différents types de couples.
L'émission est en train de toucher à sa fin. Je suis assez curieuse, chez l'une comme chez l'autre, est-ce qu'il y a au fond une impatience de l'Assemblée désormais et d'en redébattre? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ce sentiment, Agnès Buzyn? Maintenant, vous voulez y aller, l'une comme l'autre d'ailleurs, ou pas?
Moi, ce que je souhaite, je parle pour moi, c'est surtout que cette loi puisse être adoptée dans les meilleurs délais pour que notamment ces droits nouveaux qui sont ouverts puissent s'appliquer effectivement. Et c'est ça que nous voulons prioritairement.
Est-ce que vous avez une forme d'impatience, Agnès Buzyn?
Oui, parce que nous avons énormément travaillé. Oui. Nous avons préparé cette loi avec les trois ministres concernés. Frédéric Vidal, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, n'est pas là aujourd'hui, mais nous l'avons travaillé à trois. Nous avons fait énormément de travaux préparatoires avec les parlementaires, avec des séminaires au ministère, expliquant toutes les mesures. Scientifiquement, et je pense réellement que c'est une très belle loi qui ouvre de nouveaux droits, qui tient compte des avancées de la science en termes de génétique et d'autres progrès. Et c'est une loi nécessaire aujourd'hui pour accompagner ces progrès.
Et on a beaucoup entendu de batailles de chiffres récemment. J'en ai un sous les yeux qui est un chiffre de l'INSEE qui est sorti aujourd'hui qui dit qu'en 2018, 31 000 enfants étaient élevés par des couples homoparentaux vivant ensemble, dont une grande majorité de femmes cohabitantes. Donc 31 000 enfants, c'est bien qu'on ait déjà ce chiffre pour peut-être réaliser que il n'y a pas beaucoup de choses neuves finalement là-dedans.
C'est une réalité.
Exactement, c'était le sens de ce que je voulais dire. C'est une réalité. Les sondages ont l'air de dire que 65% des gens sont favorable à la PMA pour toutes. Est-ce que vous avez le sentiment que ces choses désormais sont totalement admises et passeront beaucoup plus facilement, y compris que ce qu'on a vu en 2012?
Ah oui, moi je sens que la société a basculé, qu'elle est prête, et je tiens à dire qu'on sécurise le parcours de ces femmes. Aujourd'hui, ces couples de femmes ou ces femmes seules se débrouillent pour avoir des enfants, et d'ailleurs, vous le dites, 31 000, ça n'est pas rien. Oui. Et elles cherchent des donneurs sur Internet, elles ont des rapports non protégés, elles se mettent en danger parfois pour avoir un enfant. Nous sécurisons leur parcours aussi, c'est un enjeu de santé publique pour moi.
Il nous reste même pas une minute, Agnès Buzyn, je ne veux pas vous laisser partir, puisqu'on parle finalement aussi d'éthique sans cette information dont on a eu vent cet après-midi, vous aussi j'imagine, cet essai clinique sauvage mené entre autres par le professeur Joyeux, qui avait déjà eu un mail à partir avec le Conseil de l'Ordre, nous le savons tous, j'aimerais votre sentiment là-dessus,
sur cette affaire incroyable. Je suis effondrée, horrifiée, et il y aura des sanctions et des poursuites. La loi est très claire sur les essais cliniques en France, elle est remarquablement encadrée. Les Français qui rentrent dans un essai clinique ont toutes les informations nécessaires, la régulation est très stricte et que des professionnels de santé, si on peut encore les appeler comme ça, se permettent de faire des essais cliniques sans la régulation nationale, je pense que c'est une faute lourde, une faute grave et nous verrons quelles sanctions peuvent être prises.
Qu'est-ce qu'on dit aux patients, aux personnes qui ont pris ces produits, peut-être naïvement, peut-être qu'on leur a fait croire des choses, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je suis en train d'explorer avec les services de l'Agence du sécurité du médicament quelle est la dangerosité potentielle des produits qui étaient pris par les malades. Je ne le sais pas, aujourd'hui je ne peux pas vous répondre encore. Je ne sais pas s'il y a une toxicité et un suivi, mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour accompagner les personnes.
Merci beaucoup. Merci énormément à vous deux. Merci à vos très nombreux appels, comme d'habitude. Portez-vous bien.